إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec les 40 hadiths de l'imam Nawawi et aujourd'hui nous allons nous intéresser au hadith numéro 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Ce hadith rapporté par Abu Huraira, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam أوصني, conseille-moi. Le prophète lui dit لا تغضب, ne te mets pas en colère. فردد مرارا, et il a répété plusieurs fois en disant لا تغضب, ne te mets pas en colère. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Alors quelques mots peut-être avant de commencer à expliquer ce hadith sur l'imam Nawawi rahimahullah, parce que c'est important aussi de savoir un petit peu, de situer ces hadiths et de situer un petit peu cet ouvrage de 40 hadiths de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi rahimahullah est né dans la Syrie actuelle, dans une ville qui s'appelle Nawa, et c'est pour ça qu'il s'appelle Nawawi. Donc Nawa, il y est né et il a grandi dans cette ville et il s'est rendu à Damas à l'âge de 18 ans avec son père pour pouvoir étudier. Et c'est là qu'il a étudié et il a approfondi ses connaissances dans la religion. Et pour vous montrer un petit peu la particularité de l'imam Nawawi et le fait qu'il a vraiment consacré toute sa vie à la science, il a étudié à Damas et il disait que sur une même journée, il suivait 12 cours. Dans des domaines différents. Sur une journée, il suivait une douzaine de cours dans tous les domaines, que ce soit la langue arabe, le commentaire du Coran, les sciences du Coran, le hadith, la jurisprudence. Et donc c'est quelqu'un qui avait consacré toute sa vie en réalité à la science. Et il avait une gestion du temps très très rigoureuse. Il est rapporté que même en voyage, lorsqu'il voyageait, il ne prenait pas le temps de ne rien faire. Il ne profitait pas du voyage pour ne rien faire. Au contraire, même sur la route, il était là à réviser, à réciter, à se remémorer tout ce qu'il avait pu apprendre. Donc il faisait travailler sa mémoire même pendant le voyage pour ne pas perdre de temps. Il a commencé à écrire à l'âge de 30 ans. Il a écrit énormément d'ouvrages. Peut-être qu'un jour, inshallah ta'ala, on aura l'occasion de revenir sur ses ouvrages. Il a écrit énormément d'ouvrages et à partir simplement de 30 ans, alors qu'il décède à 45 ans, donc sur une période de 15 années, il a écrit énormément d'ouvrages, des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Et si on prenait ce qu'il a écrit pendant cette période-là, qu'on le rapportait à sa vie, donc sur 45 ans, ça voudrait dire que sur les 45 années, tous les jours, il écrivait au moins 8 pages. Tous les jours, il écrivait au moins 8 pages. Donc voilà pour cette petite biographie de l'imam Nawawi rahmallah, un peu succincte, qu'il est important de situer. Ensuite, le compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu. Alors, Abu Huraira, son surnom dépasse son nom, qui est peu connu. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Barr, rahmallah, dit qu'en réalité, son surnom a effacé son nom. Et le nom qui est souvent retenu, c'est le prénom Abdurrahman. Alors, Abu Huraira radiallahu anhu est originaire de la tribu de Daous, qui est une tribu yéménite. Et il a grandi orphelin de père. Il dit qu'il a émigré aussi vers Médine en étant pauvre. Et dès qu'il arrive à Médine, à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lâche plus le prophète d'une semelle. Il est tout le temps en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le compagnon qui a, sur cette période-là, qui passait le plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les autres compagnons étaient préoccupés par la vie de tous les jours, que ce soit le travail, les activités, la famille. Lui n'était pas marié à cette époque-là et il vivait à la mosquée. Il était donc en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quasiment de manière permanente. Et il était aussi au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par moments, ça lui arrivait d'accomplir des petites tâches pour le prophète. Il raccompagnait par exemple les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que les grands compagnons comme Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Ridwanullah alayhim jami'an, lui demandaient le hadith parce qu'ils savaient que lui passait plus de temps avec le prophète. Pourtant, ce sont des grands compagnons comme Omar, Uthman, etc. Et ils venaient le voir pour lui demander des informations et savoir un petit peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis, les propos qu'il a pu tenir pendant la journée. Et donc lui-même, l'imam Abu Huraira, a eu beaucoup de disciples. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte qu'il avait à peu près 800 disciples, 800 personnes qui ont rapporté des hadiths de Abu Huraira. Et l'imam Abu Huraira, pour vous montrer son souci, la gravité dans son action, c'est que avant de commencer à citer un hadith, il avait pour habitude de citer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. » Celui qui ment sciemment à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui ment à mon sujet de manière tout en sachant ce qu'il fait de manière volontaire, qu'il prépare sa place en enfer. Et Abu Huraira, ce compagnon, c'est l'une des meilleures chaînes de transmetteurs. Certains savants disent même que c'est la meilleure chaîne de transmetteurs. Donc Zuhri, An Sa'id ibn al-Musayyib, An Abi Huraira. L'imam Zuhri, An Sa'id ibn al-Musayyib, le tabi'i, An Abi Huraira, Ridwanullahi alayhim jami'an. Et pour vous montrer l'importance de ce compagnon, il a transmis 5374 hadiths. Donc c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Le deuxième compagnon, d'un point de vue nombre de hadiths, c'est Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Alors voilà un petit peu sur cette biographie assez succincte et rapide sur l'imam Abu Huraira, Sahab al-Jalil, le compagnon Abu Huraira. Revenons maintenant sur ce hadith. Ce hadith, encore une fois, comme nous l'avions dit la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre ici sa qualité. En peu de mots, il dit des choses d'une grande importance. Et d'ailleurs, tous les 40 hadiths quasiment sont de ce registre-là, puisque certains des hadiths qui sont cités, les savants considèrent que ça représente un tiers de la science ou un quart de la religion. Donc vous avez, à travers ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qui sont très lourdes de sens. Ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit ni plus ni moins que deux mots. « La tardab ». La tardab, ne te mets pas en colère. Simplement deux mots. La tardab. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existe plusieurs hadiths qui sont rapportés dans lesquels des compagnons viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandent conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond différemment. Ici, il dit la tardab, c'est à ce compagnon qui lui demande conseil, lui dit ne te mets pas en colère. Mais dans d'autres récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne d'autres réponses. Par exemple, compagnon est venu le voir et il lui dit « Ya Rasulallah, awsini, ô messager d'Allah, conseille-moi. »« Qal awsika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. » Il lui dit « Je te recommande la crainte d'Allah car c'est à la base de toute chose. » Et dans un autre hadith, pareil, un compagnon vient le voir et lui dit « Ya Rasulallah, awsini, ô messager d'Allah, conseille-moi. » Le prophète sallam répond « Aqim al-salat wa ati al-zaka wa sum ramadan wa hujja al-bayt wa atamir wa barra walidayk wa sil rahimak wa qri al-dayf wa mur bil ma'ruf wa nha anil munkar wa zul ma'al haqq haythu zal. » Il dit « Accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de ramadan, accomplis le petit et le grand pèlerinage à la Mecque, sois bienveillant à l'égard de tes parents, préserve les liens de famille, sois accueillant pour ton hôte, ordonne le bien et combat le mal, sois avec la vérité où qu'elle soit. » Et il existe plein de hadiths dans ce sens-là, sur les conseils. Donc ce ne sont pas les seuls hadiths qui parlent du conseil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à chaque fois une réponse différente. Pourquoi ? Parce que sa réponse, elle est adaptée à la personne qu'il a en face de lui, au tempérament de la personne. Donc c'est vraiment un conseil qui est adapté à la personnalité du compagnon qui vient l'interroger. Et également, le professeur Sallam pouvait avoir des réponses différentes selon la situation. Par exemple, la personne qui s'apprête à voyager, donc là, il va tenir des propos, des conseils qui seront différents des conseils qu'il aurait pu donner si cette personne n'était pas appelée à voyager. Également, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est les compagnons qui demandent conseil. Il demande conseil, donc ça c'est une très bonne chose, le fait d'avoir cette caractéristique-là, de demander conseil. Le musulman doit demander conseil, bien sûr, aux personnes dignes de confiance, aux personnes qui ont du savoir, qui ont de la sagesse, pour pouvoir parfaire son comportement. Et ici, les compagnons venaient poser ces questions pour pouvoir s'améliorer et parfaire leur comportement. Et il est rapporté, certains savants nous disent que le compagnon qui a posé la question ici dans ce hadith, rapporté par l'imam Nawawi, ce serait le compagnon Abu Darda radiyallahu anhu. Abu Darda. Alors ici dans ce hadith, le prophète sallam montre la gravité de cette notion là, la colère. Et pour vraiment comprendre la gravité de la colère, on a cette parole de Ja'far ibn Muhammad rahimahullah qui dit al-ghadab miftah kulli shar. La colère est la clé qui ouvre toutes les portes du mal. Al-Ghadab, la colère, est la clé qui ouvre toutes les portes du mal. Et donc on voit ici la gravité de cette notion-là qui est abordée dans ce hadith, la colère. Et on va voir, inshallah ta'ala, on va essayer de détailler, de voir un petit peu comment on doit agir face à la colère. Et à l'opposé, celui qui délaisse la colère, c'est une noblesse de caractère. Et ça résume tout le bon comportement. Et d'ailleurs, on a une parole de Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qui dit, c'est un tabi'i qui dit, on vient le voir et on lui dit, Ijma'lana husna al-khuluq. Résume-nous le bon comportement, fi kalima, en une parole. Il dit, tarkul ghadab, le fait de délaisser la colère. Donc on voit ici que la colère, c'est quelque chose de mauvais et qui amène à tous les autres maux. Et à l'opposé, le fait de délaisser la colère et de se débarrasser de la colère, c'est une noblesse de caractère et c'est ce qui nous permet de rassembler en fin de compte tous les bons comportements. On a aussi ce hadith, alors certains considèrent qu'il est faible, nous allons le citer. Il s'agit d'un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin qui serait venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce compagnon-là, cet homme-là plutôt, vient en face, vient sur la droite, vient sur la gauche, et à chaque fois poser la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, ayyul amali afdal. Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des actions? Et donc il n'a pas laissé tranquille le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu par devant, par derrière, sur la droite, sur la gauche, a posé la même question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait toujours la même réponse en disant « husnul khuluq », le bon comportement. Donc le bon comportement. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par lui dire « ma laka la tafqah, qu'as-tu à ne pas comprendre ?»« Husnul khuluq, huwa an la taghdab in istata'at ». Il lui dit « c'est le bon comportement et cela signifie de ne pas se mettre en colère si tu en es capable ». Ce qu'on peut comprendre de ces paroles, et en introduction un petit peu sur ce sujet, c'est que la colère, en réalité, touche tous les hommes. Aucun homme n'est à l'abri de la colère. Et donc, ce qui est bon de savoir, c'est comment faire pour agir par rapport à cette colère. Et c'est le sens de la parole du prophète Sarsenem lorsqu'il dit « La tardab, ne te mets pas en colère ». Alors, qu'est-ce que la colère ? Tout d'abord, ce qu'il est important de préciser, c'est que la colère, c'est un état émotionnel, c'est un sentiment de base qu'on trouve dans le cœur et qui peut avoir différentes intensités. Il se manifeste alors de manière, au niveau le plus faible peut-être par le mécontentement, mais cela peut aller jusqu'à l'irritation, la fureur ou la rage. Donc Il peut y avoir différents degrés de la colère. Et en général, cette colère, elle est relative à une situation qu'on juge comme mauvaise, ou déséquilibrée, ou injuste. Et donc, cela peut faire suite à, par exemple, une douleur, une blessure, une privation, une humiliation. Donc, tous ces éléments-là peuvent être la cause de la colère. Et en réaction à ces situations, on va développer intérieurement cette protection qui va se manifester à travers la colère. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est pour la présentation, donc c'est un sentiment du cœur, la colère, un sentiment du cœur, et donc c'est un état émotionnel qui va être induit par ce sentiment. Allah a créé l'homme et a inscrit la colère et l'a lié à sa constitution. L'homme, de par sa constitution, est sujet à la colère. De par sa constitution, et cette constitution terrestre en fait. Donc cette colère, elle est liée à ce composant terrestre, si je puis dire, de l'être humain. C'est pas ce qui va élever l'homme. La colère, c'est pas ce qui va l'élever et lui donner de la grandeur, du tout. Au contraire, ça va le rabaisser, en réalité, et le rapprocher de la terre, en fin de compte. Alors, quand est-ce que cette colère se manifeste? Lorsque l'individu est détourné, repoussé d'un de ses objectifs ou de ses intérêts. Il souhaitait faire quelque chose et puis on est venu, on lui a barré la route, on l'a empêché d'atteindre son objectif, son intérêt. Et c'est à ce moment-là que le feu de la colère va s'embraser. Et en fait, l'image qu'on peut utiliser, c'est que intérieurement, le cœur qui contient le sang va bouillir en fin de compte. C'est comme si le sang était en train de bouillir, comme de l'eau bouillie, comme de l'eau boue et enfin à cette action de bouillir en fait. Et ce sang va se propager dans les veines et se transmettre dans les membres. C'est-à-dire que cette colère part du cœur, va transiter dans les veines et va arriver aux membres. Et les membres aussi vont agir par colère. Voyez la transmission un petit peu de cette colère depuis le cœur jusqu'aux membres. Et alors, cette colère, elle se manifeste. Elle se manifeste, et d'ailleurs dans un hadith que beaucoup de savants considèrent comme étant da'if, même si l'imam Tirmidhi considère qu'il est hasan sahih, nous allons citer ce hadith, mais les savants qui ont authentifié ont dit que ce hadith était faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Al-ghadabu jamratun fi qalbi ibn Adam ma ra'aytum ila jumrati aynay wa intifakhi awdajih. Il dit la colère c'est un feu, c'est une braise dans le cœur de l'homme. Ma ra'aytum ila jumrati aynay, est-ce que vous ne voyez pas cette braise qui scintille dans les yeux de l'individu qui est en colère, et que ses veines gonflent. Elles se gonflent parce que justement, il y a cette colère qui le prend, comme on l'a dit, qui se transmet, qui se propage à travers les veines et qui se transmet aux membres de la personne. Donc vous voyez, à travers ce hadith, qui est faible bien entendu, on voit comment la colère se transmet aux membres. Et elle arrive aussi aux yeux avec cette braise, et on le voit dans le regard de la personne qui est en colère, qu'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, attention, la colère, on a dit, elle est suscitée par une situation d'injustice, le fait qu'on est dévié aussi de nos intérêts, etc. Mais en réalité, la colère, elle va s'exprimer si on sait que la personne qu'on a en face de nous, sur lequel on va déverser notre colère, on va se venger, on va effectuer nos représailles, si on sait qu'on a la possibilité de gagner ou d'avoir le dessus sur cette personne, si on sait que la personne en face, on n'a aucun moyen, c'est une autorité, c'est une personne forte, c'est ce que vous voulez, si cette personne, on sait qu'on n'aura aucun pouvoir sur elle, alors ça peut être un autre sentiment qui va apparaître. Et on va voir que le cœur va réagir totalement différemment. Et là, on ne va plus avoir cette chaleur qui va monter, cette pression qui va monter. Au contraire, ça va être une situation de, de tristesse qui va prendre le cœur parce qu'on n'a aucune possibilité d'avoir le dessus sur cette personne-là. Et donc c'est un effet inverse sur le cœur, et donc avec un ralentissement peut-être de l'activité cardiaque, et voire une pâleur qui peut apparaître sur le visage, alors qu'à l'opposé, lorsque la colère se manifeste, le visage est rouge, on a dit, le sang se propage dans les membres, et il y a une pression terrible, énorme, sur l'individu. Alors après cette introduction, on va essayer d'évoquer les différents niveaux de colère. Il existe différents niveaux de colère. Le premier niveau de colère, c'est un niveau qui est très bas. Premier niveau, premier degré de colère, c'est un niveau de colère qui est très bas. Et là, le risque, c'est qu'il n'y ait aucune réaction. Qu'il n'y ait aucune réaction de la personne, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une personne qui est complètement effacée, voire même une personne qui n'a pas de personnalité. Et cela, en réalité, n'est pas souhaitable qu'une personne soit complètement effacée, totalement effacée. C'est pas le but de la parole prophétique et c'est pas le sens du message de l'islam. Et d'ailleurs, le savant, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit « Man istourdiba falam yardab fahuwa himar »« Man istourdiba falam yardab fahuwa himar » Il dit « Celui qu'on pousse à la colère et qui ne se met pas en colère, alors c'est un âne. » Et donc cette parole-là de l'imam Shafi'i, bien entendu, elle n'est pas en contradiction avec le hadith que nous sommes en train d'étudier, « La tardab ne te met pas en colère ». Bien entendu, il ne faut pas se mettre en colère, mais on va voir comment gérer cette situation, parce qu'on a dit que la colère c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'individu, qui l'homme ne peut pas se... Enfin, ce sentiment, tôt ou tard, il le trouvera dans son cœur, mais c'est comment gérer ces situations et comment agir face à la colère. Et donc, le fait de s'effacer totalement, ça n'est pas quelque chose qui est souhaitable, comme nous allons le détailler. Ensuite, le deuxième niveau de colère, c'est un excès de colère. C'est ce qu'on pourrait appeler la fureur, la furie, la rage, un accès de colère. Et cela, ce niveau-là, c'est le plus dangereux. Et c'est celui qui est visé explicitement par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tardab que nous sommes en train d'étudier, ne te mets pas en colère. Pourquoi ? Parce que cet excès de colère te fait perdre la raison, il te fait perdre la religion, il te fait perdre l'obéissance à Allah, et tu perds tous tes moyens en réalité, en pensant que tu maîtrises tous tes moyens, mais tu perds tous tes moyens qui t'élèvent et qui te permettent d'agir avec sérénité, avec intelligence. Il n'y a plus aucun discernement, plus de réflexion, plus de choix, plus de clairvoyance du fait de cette colère. Et ce niveau-là et ce degré-là de colère se caractérise par plein d'effets qui sont visibles. Le premier, c'est une accélération du rythme cardiaque, une accélération du rythme du cœur, ce qu'on appelle une tachycardie. On a des bouffées de chaleur, on a une oppression thoracique sur la poitrine, vous voyez. On a des sueurs froides, des sueurs, des tremblements. Et les réactions qui peuvent s'en suivre, c'est le fait d'avoir envie d'attaquer autrui, verbalement, physiquement, voire de lancer ou de détruire des objets. Donc toutes ces caractéristiques-là sont liées à ce niveau d'excès de colère. Et ça correspond à un emballement du cœur, comme on l'a évoqué précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un hadith, il nous dit « Inna al-ghadaba min al-shaytan » Le hadith est Hassan, rapporté par l'imam Abu Daoud, et l'imam Abu Daoud s'est tué à son propos, sakata an. « Inna al-ghadaba min al-shaytan, wa inna al-shaytana khuliqa min al-nar » Il nous dit « Inna al-ghadaba min al-shaytan » La colère vient du diable, et le diable a été créé de feu. Et donc dans ce hadith, on comprend en réalité que les bouffées de chaleur qui nous viennent, c'est lié à cette colère, et il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'en réalité la colère, elle a une origine un peu comme de feu. C'est comme un sentiment, vous voyez ce sentiment de feu, de chaleur qui vous saisit lorsque vous êtes en colère. Et d'où vient cette colère ? En général, ça peut être le fait de être encouragé par d'autres personnes, mais parfois aussi des sentiments qu'on peut avoir intérieurement, de supériorité, de ce que vous voulez, ou de se dire « je ne me laisserai pas faire, je n'accepte rien de personne », ou montrer une certaine virilité, ou montrer un certain courage, alors qu'en réalité, ça n'est ni de la virilité, ni de la courage, ni du courage, c'est ni de la virilité, ni du courage que d'agir par excès de colère. Alors les conséquences de cet état de fait, de cet excès de colère, comme nous l'avons dit, la disparition de la raison, de la réflexion, de la lumière de la raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce feu qui nous saisit, comme utilise le prophète Sallam ici, un nar minan nar, le ghadab minan nar, c'est comme si, en fait, ce feu qui se consume intérieurement dégage une fumée et qui nous permet et qui nous masque la vue. On ne voit plus rien. Notre regard est obscurci. On ne voit plus les choses comme elles sont en réalité. On n'a plus ces capacités de discernement. Nos sens ne sont plus, ne fonctionnent plus correctement. Et donc, je vois les choses, mais sans les voir correctement. On a aussi ce cœur qui est semblable à une cavité pleine de magma en fusion. Notre cœur est empli de ce feu ardent, comme une grotte, comme une cavité qui est pleine de magma en fusion, et cette caverne, elle est prête à exploser. Et ce que je suis en train de dire là, le fait que cette caverne est prête à exploser, et donc en réalité le cœur est prêt à exploser, ça n'est pas quelque chose d'impossible. Parfois, ça peut arriver que certaines personnes qui se mettent en colère et qui dépassent les limites et qui y a une telle pression dans leur cœur que leur cœur finit par s'arrêter. Vous voyez, cet emballement dont on a parlé tout à l'heure, l'accélération du rythme cardiaque, et qui amène à la fin et qui peut provoquer l'arrêt du cœur. Et donc, vous voyez les effets très très graves, en réalité, de la colère sur l'individu. Les effets aussi, c'est que la personne, comme on l'a dit, elle devient sourde, elle devient aveugle, elle n'arrive plus à voir, elle n'arrive pas à entendre. Sa couleur change, hein, pour passer au rouge, le visage, les yeux. La langue commence à hausser le ton. On insulte, on tient des propos incohérents. Parfois même, certaines personnes qui sont en colère insultent et parlent même aux animaux, et s'en prennent aux animaux, par la parole, ou par les membres. Donc avec les membres, avec ses mains, avec ses pieds, on peut donner des coups, on peut détruire, on peut blesser, on peut aller même jusqu'au meurtre, on peut jeter des objets, on peut s'en prendre à des animaux. Et en réalité, tous les mouvements qui sont issus de cette colère, en général, ce sont des mouvements qui sont brutaux et qui ne sont pas coordonnés. Et en réalité, si on avait la possibilité de filmer la personne, si on filmait la personne en état de colère et qu'on lui montre les images, après qu'elle se soit calmée, la personne est méconnaissable. Elle ne se reconnaîtrait pas à travers ce comportement-là. Comme si c'était une autre personne, totalement différente. Et voire même, elle serait prise peut-être d'un sentiment de honte ou d'humiliation parce qu'elle se trouve dans cette situation-là. Et les effets, encore une fois, de la colère, ça peut être la haine, la jalousie, la vengeance, énormément de choses qui peuvent être liées. Voir aussi on a parlé du meurtre, ça peut être aussi entre époux, ça peut aller vers le divorce, ça peut être la dispute, ça peut être toutes des choses qui sont condamnables. Après, sur un aspect plus personnel, ce qui peut être provoqué par la colère, ce sont des maladies comme l'hypertension, le diabète ou des problèmes cardiaques. Donc on voit ici que les effets de la colère sont multiples et qui touchent l'individu dans sa propre personne, dans sa constitution, autour de lui, dans son environnement, qu'avec des effets qui sont néfastes. Et voire même la pire des choses, peut-être que cette personne-là peut tomber dans la mécréance. Peut tomber dans la mécréance simplement à cause de la colère, et c'est déjà arrivé. C'est le cas d'un roi Ghassanide, Rassaniyun, qui était un des rois de la Syrie de l'époque, hein, puisque c'était une dynastie Rassaniyun. Et cet homme s'appelait Jabala ibn al-Ayham. Cet homme qui s'était converti à l'islam et qui a vécu disons à l'époque du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Ce qui lui est arrivé, c'est qu'un jour, alors qu'il était à Damas, bien entendu, un homme l'a giflé. La gifle sur l'œil, enfin sur son visage en particulier. L'œil. Et cet homme est venu se plaindre et demander justice. Il a attrapé Jabala ibn al-Ayham, qui était précédemment un roi, a amené cet homme qui l'a giflé auprès de l'autorité, donc le compagnon Abu Ubayd ibn al-Jarrah, en lui disant, voilà, cet homme m'a giflé et je demande réparation. Alors le compagnon Abu Ubayd ibn al-Jarrah lui dit, voilà, bah alors redonne-lui une gifle. Donne-lui une gifle pour que vous soyez quitte. Et cet homme, Jabala ibn al-Ayham, qui était un ancien roi, dit, est-ce qu'il ne va pas être tué ? Abu Ubayd ibn al-Jarrah dit non, il ne va pas être tué. On ne va pas lui couper la main. Non, on ne va pas lui couper la main. Il t'a giflé, et tout ce qu'il mérite, c'est le fait d'être giflé. Et à ce moment-là, cet homme s'est mis en colère, et il n'a pas supporté, et il a renié l'islam. Et il dit, cette din hada, il a rejeté cette religion. Pourquoi ? Parce que cette religion est bâtie sur l'équité. Il t'a giflé, on te gifle. Mais pas plus, pas moins. Et cet homme voulait plus, il voulait que cet homme soit exécuté simplement parce que il a giflé Jabala, qui est issu d'une grande famille, qui est une dynastie, etc. Et donc cet homme a renié même sa religion et est retombé dans la mécréance. Alors ça, c'est pour le deuxième niveau qu'on a évoqué. Le troisième niveau qui nous reste à évoquer, c'est cette colère du juste milieu. Et celle-là, c'est une colère qui est à rechercher en fin de compte, parce que c'est une colère, c'est une colère qui est à rechercher, c'est une colère qui est bonne, parce que c'est une colère qui est juste, du juste milieu, et qui attend en réalité les instructions du cerveau, de la raison, ou les instructions de la religion pour agir. Et donc qui ne va pas mettre de côté le cerveau, la réflexion, la raison, comme c'est le cas dans le deuxième niveau, où là la personne elle a un accès de colère, elle oublie tout, elle n'a plus de cerveau, elle ne voit plus rien, elle ne reconnaît plus personne. Là le troisième niveau c'est je suis en colère, d'accord, je prends acte de cette colère, mais comment je vais agir? Je vais attendre et je ne vais pas enfreindre les lois qu'Allah soit à fixer, les principes qu'Allah soit à fixer. Et donc c'est une colère qui est juste et qui doit apparaître seulement quand c'est nécessaire et qui s'éteint quand il est nécessaire de faire preuve de douceur. C'est-à-dire que cette colère, elle ne doit pas perdurer et puis anéantir tout ce qu'il y a autour. Non, cette colère, elle doit être mesurée pendant un moment par rapport à une situation. Et dès lors qu'il n'y a plus d'intérêt d'avoir cette colère, on revient à de la douceur. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Il nous dit... ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Il dit, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui met par terre son adversaire. L'homme qui est fort, ce n'est pas celui qui met son adversaire par terre. L'homme qui est fort, c'est celui qui se maîtrise lorsque il est en colère. Et c'est ce qui est à rechercher. C'est celui qui se maîtrise lorsqu'il y a le colère, parce que la colère c'est un sentiment qui existe chez tous les hommes. Alors poursuivons maintenant notre réflexion sur cette parole du prophète sallam, la tardab. Revenons à ce hadith, la tardab, ne te mets pas en colère. Ici la signification qu'on pourrait trouver, tout d'abord c'est délaisse ce qui peut provoquer la colère. La tardab, agis de sorte à ce que tu puisses repousser les causes des problèmes. Ça fait appel à une règle juridique qui s'appelle sadd al-dhara'i'a. Donc le fait d'agir sur les causes avant d'arriver vraiment au problème ou à la difficulté. Donc délaisse ce qui peut provoquer la colère. Donc avant d'arriver à la colère, fais en sorte que tu mettes en place tous les moyens nécessaires pour que tu ne tombes pas dans la colère. Deuxième signification possible, c'est n'agis pas sous le feu de la colère. C'est que là, la colère, elle est là, elle est présente. Dans le premier cas, la première signification, c'est que la colère n'est pas encore présente, donc je vais agir sur les éléments qui risquent de provoquer la colère. Donc je vais essayer de m'en débarrasser avant de tomber dans la colère. Par contre, si la colère est là, le feu de la colère est là, à ce moment-là, toutes les décisions que tu prends tu ne dois pas les prendre sous le feu de la colère. Parce que toutes ces décisions-là que tu dis, tous les propos, tous les gestes, tous les mouvements, tout ce que tu peux faire en état de colère, c'est quelque chose qui est néfaste et qui peut porter préjudice à toi-même et à autrui. Et donc il ne faut surtout pas agir sous le feu de la colère. Alors, combien de personnes ont pris des décisions sous le feu de la colère? Et ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir mis en pratique, de ne pas avoir réalisé ces décisions qu'ils ont prises. Parce qu'ils ont pris des décisions sous le feu de la colère et qui étaient vraiment très mauvaises, très néfastes pour eux-mêmes. Et heureusement qu'ils n'ont pas mis en pratique ces décisions. Et malheureusement, à l'opposé, certains ont mis en pratique ces décisions qu'ils avaient prises en état de colère et ensuite ils les regrettent amèrement. Et puis, ce qui peut suivre derrière, hein, ça peut aller jusque de la prison, le meurtre, etc. Donc des choses qui peuvent être très très graves. Donc, n'agis pas sous le feu de la colère. C'est ce que nous dit le professeur Sonam dans ce hadith. La tardab, éloigne-toi de la colère, tout ce qui peut causer la colère, mais également lorsque tu es sous le feu de la colère, n'agis pas. N'agis pas sous le feu de la colère parce que tu risques de commettre des choses qui sont parfois irréparables ou difficilement réparables. Le but de ce hadith, ça n'est pas de dire qu'il n'y a pas de colère. Non, la colère, comme on l'a dit, elle existe, elle est là. Mais c'est comment réagir face à la colère et comment agir sur la colère. Comment agir sur la colère pour pas qu'elle éclate et qu'elle dépasse et qu'elle outrepasse les limites. Également, ce qu'on peut dire de ce hadith, c'est que la colère, en réalité, puisqu'on a vu tout à l'heure, hein, le propos de Ja'far ibn Muhammad qui nous disent « Al-Ghadabu miftahu kulli shar », mais également, en réalité, la colère, c'est la porte d'entrée principale de Shaitan. Pourquoi ? Il est très content lorsque la colère éclate. Parce que de nous-mêmes, nous allons mettre de côté, lorsque la colère éclate et qu'elle prend son ampleur et qu'elle atteint son paroxysme, on met de côté malheureusement la foi et la raison, qui sont diminuées sous l'effet de la colère, voire même disparaissent sous l'effet de la colère. Et là, c'est une grande porte qui est ouverte au diable pour se jouer de nous et pour nous utiliser, pour nous amener à des choses que nous risquons de regretter toute notre vie. Et donc c'est pour cela qu'il est très important de se maîtriser lorsque ces situations apparaissent. Alors, quels sont les remèdes contre la colère? Les remèdes qu'on peut citer contre la colère sont de deux sortes. La première, al-ilm, la connaissance et le savoir. La deuxième, al-amal, des actions qu'on peut mener. Commençons par al-ilm, la connaissance. Et ça, c'est très important, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Premier élément, c'est qu'il faut méditer, ce qui aide justement à maîtriser la colère et à remédier, parce qu'en réalité, pour pouvoir trouver une solution à la colère, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un entraînement en réalité, c'est une pratique tout au long de notre vie, parce qu'on est toujours guetté par la colère, elle est toujours là, elle nous guette, cette colère, et savoir comment réagir, hein, se maîtriser face à la colère. Alors on a la connaissance à travers l'exemple de ceux qui ont dompté la colère, et en particulier les prophètes, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les messagers de manière générale, les premières générations également, qui sont des exemples, hein, qui ont dompté la colère, et le fait de méditer sur leur exemple, ça nous permet justement de s'imprégner de leur exemple, et aussi de penser à la récompense qui est associée justement à cette maîtrise de la colère. Le deuxième élément, c'est de craindre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir agi sous la colère. Parce que en laissant libre cours à sa colère, c'est comme si quelque part, j'étais en train de me mettre au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la crainte de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir agi sous la colère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la toute puissance, il a toute la capacité qui dépasse ma capacité de représailles et de vengeance. Moi, sous l'effet de ma colère, je veux des représailles, je veux de la vengeance, mais si j'agis ainsi, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala me prenne dans son courroux, dans sa colère, et là, à ce moment-là, sa puissance et la capacité d'Allah, dans tous les cas, me dépasse et risque, je risque une punition qui est grave, dramatique, ici-bas et dans l'au-delà. Et se rappeler qu'en réalité, on a besoin du pardon d'Allah, le jour du jour. Et donc, tout cela, ça appelle à la douceur. Troisième élément de connaissance, donc premier c'était méditer sur les exemples, deuxième c'est de craindre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, troisième élément c'est de craindre les conséquences immédiates de la colère, de l'action de la colère, sous la colère. Le fait de détruire, de blesser, de conduire au divorce, au meurtre, à tout ce qu'on peut imaginer, ça a des conséquences immédiates qu'on risque de regretter dans tous les cas, plus les conséquences dans l'au-delà. Donc vraiment craindre les conséquences immédiates et également les conséquences dans l'au-delà pour ses actes. Quatrième élément, c'est de penser, de méditer sur son image. En état de colère, comme on l'a dit tout à l'heure, si on devait se filmer et de voir comment on réagit sous l'effet de la colère, c'est quelque chose qui est pas sain, qui est pas... c'est pas quelque chose qui correspond peut-être à notre état d'esprit, à notre façon d'agir habituellement. Et puis... on a peut-être tout intérêt à ressembler au meilleur des exemples, aux prophètes, avec leur douceur, avec leur maîtrise. Ou alors préférons-nous nous ressembler à des animaux féroces qui déversent toute leur colère, toute leur méchanceté, toute leur furie, toute leur agressivité. Choisissons ce que nous voulons. Donc méditons sur cela, sur l'image que nous renvoyons. Est-ce que c'est une image prophétique qui se rapproche des prophètes ou c'est une image qui se rapproche des bêtes féroces ? Cinquième élément qui nous permet de remédier contre la colère, le fait de réfléchir sur les causes de la colère. Les causes, comme on l'a dit dans bien des cas, ce sont des amis qui peuvent nous allumer et nous exciter dans la colère. Voire même le diable, qui peut brosser un tableau, enjoliver, et te dire, mais tu ne crains rien, tu es fort, tu es si. Alors, ne te préoccupe pas des regards, ni des propos des gens. Préoccupe-toi du regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ses anges, et des messagers, par exemple le jour du jugement, le regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout temps. Mais également, le regard de notre noble messager, qui nous a transmis cette parole, la tardab, qu'est-ce que tu en as fait ? Donc réfléchis aux causes de la colère. Ne te préoccupe pas du regard des gens. Ne te préoccupe pas de leurs propos. Préoccupe-toi du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole du noble messager, du regard du noble messager du jour du jugement, qui va dire voilà ma communauté et voilà ce qu'ils ont fait. Et donc, bien méditer sur cela, sur les causes de la colère. Dernier élément en termes de savoir et de connaissance, c'est que la colère, elle doit être guidée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son message et non pas à travers ma propre volonté. Parce qu'en réalité, lorsque je libère ma colère et j'agis sous la colère, qu'est-ce que je fais ? J'agis selon ma volonté personnelle. Je me fais plaisir. Quelles que soient les conséquences. Alors, est-ce que ça n'est pas mieux d'agir sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous ses recommandations ? Voilà pour la connaissance. Voyons maintenant les actions qu'on peut mener face à la colère. Tout d'abord, lorsque la colère se déclare, première chose, c'est al-isti'adha billah, le fait de demander la protection à Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier contre Shaitan. Demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan dans le hadith, deux hommes se sont disputés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un qui insultait l'autre, en colère, en furie, son visage rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni la'alamu kalimatan, law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Faqalu lil-rajul, ala tasma'u ma yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ?» Cet homme qui est en furie, le prophète dit aux compagnons qui sont autour de lui, cet homme s'il disait une parole, cela enlèverait toute sa colère, toute cette rage qu'il a, ça l'enlèverait. Cette parole, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande protection à Allah contre Shaitan, le diable, le maudit. Et les gens ont dit à cet homme, Ala tasma' ma yaqulu an-nabi, est-ce que tu n'entends pas, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu n'entends pas ce que dit le messager, le prophète? Et cet homme, toujours en colère, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne voit plus, il n'entend plus, il ne sait même plus qui est en face de lui, il ne sait même pas de qui émane la parole, il ne voit plus. Il dit, lestu bi majnoun, inni lestu bi majnoun, je ne suis pas possédé. Je ne suis pas possédé par le diable. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas... Je sais ce que je suis en train de faire. Alors que c'est tout le contraire. Parce qu'il n'a plus cette capacité de discernement comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième action à mener lorsqu'on est sous le feu de la colère, c'est de changer de position. Si on était debout, de s'asseoir, si on était assis, de s'allonger, de ne pas rester dans la même situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Idha ghadiba ahadukum, lorsque l'un d'entre vous se met en colère, s'il est debout, qu'il s'assoie. Et si cela s'en va, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, qu'il s'allonge. Donc vous voyez, changer de situation, et ça c'est important parce qu'en fait on fait déplacer le sang d'un organe ou de certains membres à d'autres membres. Et ça permet de limiter un peu cette pression, hein, cette pression qu'il peut y avoir à travers le fait de véhiculer, de propager le sang à d'autres membres pour pouvoir faire tomber la pression dans le corps et que cet individu retrouve la raison. Troisième élément, c'est le fait de se taire. Le prophète dit « Wa idha ghadiba ahadukum falyaskut » Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et ça aussi, c'est une des armes qu'on peut utiliser contre la colère. C'est de ne pas parler sous le feu de la colère, parce que justement, comme on l'a dit, dans bien des cas, lorsqu'on parle sous le feu de la colère, on risque de dire des propos qu'on regrette par la suite. Quatrième élément, le fait d'accomplir des ablutions. Alors certains hadiths, enfin ce hadith-là, pour certains savants, n'est pas authentique. D'autres le considèrent comme un hadith authentique. C'est le cas d'Abu Daoud qui s'est tu à son propos. Mais sinon, Al-Albani, rahimallah, et Shu'aib Arnaout considèrent que le hadith est daif. Le prophète sallam aurait dit « Inna al-ghadaba min ash-shaytan, wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar, wa innama tutfi'u an-nar bil-ma, fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. » Il dit la colère émane de Shaitan, du diable. Et le Shaitan, le diable, a été créé de feu. Et ce qui permet d'éteindre le feu, c'est l'eau. Alors, si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Vous voyez, c'est le fait de faire ses ablutions, ça permet de faire tomber la pression, de tomber la température, et de revenir à une autre situation. Ça permet de changer, de quitter le moment où on était en pleine colère, etc., de revenir à quelque chose de plus serein à travers les ablutions. Cinquième élément, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Alors voilà pour les actions à mener pour calmer la colère et la maîtriser. On va donner quelques exemples des compagnons et des premières générations pour illustrer nos propos. Tout d'abord, l'histoire de ces deux hommes. De ces deux hommes qui, l'un était quelqu'un de très assidu dans son adoration, qui adorait, qui était très scrupuleux dans son adoration, et un autre qui était, on va dire, moins strict et qui commettait des péchés, et qui ne s'arrêtait pas de commettre des péchés. Et un jour, l'homme, cet individu qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois il disait à cette personne « arrête de commettre tes péchés, etc., reviens dans le droit chemin », et un jour il s'est énervé. Cette personne qui était, entre guillemets, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, sérieusement, s'est mis en colère et a dit à l'autre « Wallahi la yaghfirullah, wallahi la yaghfirullah lak, wallahi la yaghfirullah li fulan, wallahi la yaghfirullah lak. » Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas, il ne pardonnera pas à cet individu. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la parole. Et il dit « Man dhalladhi yata'alla alay, alla aghfira li fulan » Qui jure en mon nom que je ne pardonnerai pas à cet individu. Il dit, Allah, Inni qad ghafartu li fulan. J'ai pardonné à cette personne qui commettait des péchés. Wa ahbattu 'amalak. Et j'ai annulé tous tes actes à toi qui as juré en mon nom pour quelque chose qui ne te concerne pas. C'est pas à toi de jurer, de juger les gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge les gens. Et donc ici, cette personne a agi sous le feu de la colère parce qu'elle était agacée. À chaque fois, elle disait à cette personne, arrête de commettre des péchés, arrête de... Sois juste, sois si, ne commets pas des péchés. Puis au bout d'un moment, elle a perdu les pédales, elle s'est énervée et elle a juré qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas pardonner à cette personne-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné et elle a annulé toutes les actions de cette première personne qui a juré. Donc voilà les risques lorsque on agit sous le feu de la colère. Deuxième exemple, celui de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Un homme est venu le voir lorsqu'il était calife et il y avait une répartition qui avait été faite et cet homme a trouvé que cette répartition n'était pas juste. Il est venu voir et lui a dit « Tu n'es pas juste » à Omar ibn Khattab. Omar s'est mis en colère et un homme qui était dans l'entourage de Omar lui a dit « Est-ce que tu ne te souviens pas du verset ?» Sois indulgent, ordonne le bien et évite les ignorants. Et lui dit, cet homme fait partie des ignorants. Donc ignore-le en fin de compte, comme le dit le verset. Et Omar dit, tu as raison. C'était comme si un feu s'était embrasé en moi. Et tu as éteint ce feu à travers ce rappel. Vous voyez, avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça peut faire tomber la pression et faire en sorte qu'on retrouve la raison. Même les compagnons, ça reste des hommes, comme on l'a dit, qui sont sujets aussi à la colère, mais le tout, c'est d'agir avec intelligence et en respectant les principes de notre religion. Un homme a dit à Malik ibn Dinar, j'ai entendu que tu as parlé de moi en mal. Un homme est venu voir Malik ibn Dinar, rahimallah, et lui a dit, j'ai entendu que tu as parlé de moi en mal. Malik dit, si c'est vrai, alors tu es plus noble pour moi que ma propre personne. Parce que si c'est vrai ce que tu dis, si ce que j'ai fait c'est vrai, alors ça veut dire que je t'ai offert toutes mes bonnes actions, toutes mes hasanats, je te les ai offertes à travers ce comportement si j'ai eu des propos malsains à ton égard. Vous voyez comment Malik ibn Dinar en réalité a clos l'incident. Troisième histoire, celle du compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, qui s'était mis en colère et qui avait décidé de ne plus financer cet autre compagnon qui s'appelle Mistah, qui était un proche de lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait tenu des propos diffamatoires sur sa fille Aïcha. Nous n'allons pas détailler, mais il avait tenu des propos diffamatoires à l'égard de la fille d'Abu Bakr, Aïcha radiallahu anha, et Abu Bakr s'est mis en colère et il s'était promis de ne plus aider financièrement cet individu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à ce propos. Dit wa la ya'tali ulul fadl minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Abu Bakr a dit oui, je veux que tu me pardonnes, Allah. Oui, je préfère que tu me pardonnes et j'aime que tu me pardonnes. Un autre récit, celui de Abdullah ibn Abbas. Un homme lui rend visite un jour et cet homme n'a pas cessé d'insulter Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Et quand l'homme eut terminé ses insultes, Ibn Abbas dit à son disciple qui était juste à côté, Ikrimah, il lui dit, vois quels sont les besoins de cet homme, vois de quoi il a besoin, comme ça on pourra lui donner. Et cet homme, lorsqu'il a vu cette douceur et ce comportement noble de Abdullah ibn Abbas, il était confus, il a baissé la tête et il était honteux. Voilà quelques exemples de personnes qui ont maîtrisé leur colère et qui ont su agir en bonne intelligence en respectant les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour bientôt terminer, inshallah ta'ala, nous avons le fait que la colère, c'est quelque chose qui peut être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque. Nous n'avons pas ici la possibilité de nous étaler là-dessus, mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit comme pouvant être en colère. Et d'ailleurs, dans cette sourate que nous répétons tous les jours, « Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin » ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'élève contre toutes les injustices en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toutes les injustices. Il ne supporte pas l'injustice subhanahu wa ta'ala. Mais il nous dit également, à travers les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa clémence dépasse sa colère, comme l'a précisé le messager dans un récit prophétique authentique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère, mais sa miséricorde dépasse sa colère. Et sa colère ne se manifeste qu'à travers, lorsqu'il y a des injustices, contre toutes les formes d'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également se mettait en colère. Mais il ne s'est jamais mis en colère pour sa propre personne. Il ne supportait pas les injustices. Et lorsqu'il y avait une injustice qui était commise, ou que les principes et les commandements divins étaient bafoués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Il n'a jamais levé la main sur quiconque, en dehors des combats. Il n'a jamais levé la main sur une femme, des enfants, des hommes, enfin sur personne, qui que ce soit, en dehors des combats. Et donc tout cela, c'est de la colère juste. C'est le fait de rejeter toute injustice. Ce sentiment de colère est bon. Et il est autorisé. Et c'est bien de l'avoir. Et il faut l'avoir parce que le fait de rejeter toute injustice, c'est quelque chose qui est noble. Mais il faut agir sous le contrôle de la raison et des principes de la religion. Pas comme nous l'avons vu précédemment, où des personnes perdent les pédales et s'énervent et agissent sans raison. En bafouant les principes de l'islam, ça n'est pas le sens de l'exemple prophétique et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et des nobles compagnons qui ont suivi les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour bientôt terminer, inshallah ta'ala, je vais vous citer ces propos de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui dit: tous les méfaits ont pour origine l'un de ces quatre constituants: l'orgueil, la jalousie, la colère, la pulsion. Lorsque la colère est anéantie, il est plus aisé d'être juste et humble. Il est plus facile de déplacer des montagnes, il dit, que de se débarrasser de ces quatre vices, surtout lorsqu'ils sont ancrés durablement, qu'ils sont devenus des caractéristiques persistantes. Ces vices troublent la perception du cœur, ces quatre vices que nous avons cités. Troublent la perception du cœur, si bien qu'il voit le faux comme une vérité, la vérité comme quelque chose de faux, le bon comme mauvais et le mauvais comme bon. Les plaisirs mondains deviennent proches et l'au-delà s'éloigne. Ces quatre sentiments prennent racine dans la méconnaissance de son Seigneur et la méconnaissance de sa propre personne. Car si l'individu connaissait son Seigneur, il saurait qu'il est doté de qualités d'excellence et d'attributs de grandeur. Et s'il se connaissait lui-même, il saurait qu'il est plein de défauts et de méfaits. Il ne s'enorgueillerait pas et il ne se mettrait pas en colère et il ne jalouserait pas. Pour se débarrasser de la colère, il faut se connaître soi-même et connaître son âme et avoir à l'esprit que elle ne mérite pas qu'on se mette en colère pour elle, cette âme, ni qu'on se venge pour elle, mais on doit la sacrifier en l'habituant à l'altruisme et en la sacrifiant pour la colère pour Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction, l'agrément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les propos d'Ibn al-Qayyim sur la colère. On va terminer avec cette parole prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui a été authentifié par certains savants du hadith, il dit: man kadhama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunqidah mala'ahu Allahu amnan wa imana. Celui qui domine sa rage, sa furie, sa colère ardente, alors qu'il est capable de la déverser, Allah emplira son cœur de sérénité et de foi. Voilà cette parole de réconfort et comment réagir par rapport à la colère. وبارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم من له الفضل علينا وارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.